à tous et à toutes d'être là. Donc juste quelques éléments d'introduction pour qu'on puisse ensuite discuter ensemble, parce que c'est ça vraiment l'idée de cette journée. Vous m'entendez tous bien? Tout va bien?
Oui.
Donc on a intitulé cette petite réunion débat RIC, donc référendum d'initiative citoyenne, démocratie participative, comment s'organiser et décider collectivement. C'est une problématique qui, nous les anarchistes, nous taraude toujours. Comment est-ce qu'on s'organise? Comment est-ce qu'on décide collectivement? Comment est-ce qu'on fait de la politique ensemble de façon non hiérarchique? Donc c'est autour de ces questions-là qu'on va tourner, en tout cas dans cette introduction-là va tourner. Alors quel est le problème à la base? Pourquoi est-ce qu'on a tout d'un coup ces revendications de plus de démocratie qui émergent? Ça vient, je pense, que du fait que le gouvernement dit représentatif, celui qu'on a actuellement avec des représentants, n'est pas ce que la plupart des gens estiment être la démocratie. Je ne sais pas si la plupart c'est le bon terme, mais en tout cas, on peut avoir une conception différente de ce que c'est que la démocratie. Si on revient aux origines antiques de la démocratie, c'est le peuple assemblé qui décide la démocratie. Et confier par contre le pouvoir de décider à des représentants qui ont été élus, c'est l'aristocratie. L'aristocratie qui veut dire le pouvoir des meilleurs. Et donc, par comment est-ce qu'on désigne les meilleurs? C'est le peuple qui se réunit pour choisir ceux qu'ils estiment le plus aptes. Et donc, être gouverné par des représentants, on passe dans un système aristocratique. Ça, c'était très clair pendant assez longtemps, et même au XVIIIe siècle, à l'époque des révolutions américaines et françaises, les bourgeois qui ont fait la révolution et qui prétendaient recréer de nouvelles institutions, eux, pour eux, c'était très clair qu'ils ne voulaient pas une démocratie. Parce que la démocratie, c'était confier à n'importe quel paysan le droit de décider, et la peur qu'ils avaient, c'est que la première décision qui serait prise, ce serait de supprimer la propriété privée, et que ce serait vraiment une grosse connerie. Donc, à cette époque-là, il était très clair qu'ils ne voulaient pas une démocratie, mais un régime représentatif. C'est ce qui a été mis en place, et il se trouve qu'avec le temps, on a commencé à appeler ce régime représentatif une démocratie. Donc, il y a eu un glissement de sens. Donc, en fait, le gouvernement représentatif est une forme d'aristocratie, et pas une démocratie à proprement parler. Nous, les anarchistes, on a tendance à estimer que le problème de la représentation, c'est que c'est toujours, ou que ça risque toujours d'être une forme de trahison. C'est-à-dire que ceux qui nous représentent finissent assez rapidement par ne plus représenter personne et ne plus représenter qu'eux-mêmes. Et dans le régime français, les représentants ont même l'obligation de ne pas suivre l'avis de leur mandant, mais de se décider en conscience. Ils ont un mandat dit représentatif et non pas impératif, c'est-à-dire que c'est pas les gens qui votent pour eux qui leur donnent un ordre et des directives, c'est on élit une personne qui ensuite se décide en conscience sans avoir à écouter qui que ce soit. Donc il y a toujours la crainte ou le constat que l'électeur peut trahir, que le représentant peut trahir les électeurs. À ceci s'ajoute le fait que chez les anarchistes, on a tendance à penser que le pouvoir est corrupteur. On s'appelle le groupe Louise Michel, et Louise Michel aurait eu une phrase qui nous est restée, qui est « le pouvoir est maudit et c'est pour ça que je suis anarchiste ». Et ce qu'elle avait en tête, en fait, c'était de dire que dès lors qu'il y avait la possibilité d'avoir du pouvoir et qu'on le donnait à quelqu'un, ce pouvoir, la personne s'en emparait, et même avec les meilleures intentions du monde au départ, tendait à s'enivrer de pouvoir et à ensuite rechercher le pouvoir pour lui-même, en oubliant un peu sa mission et ses idéaux initiaux. Et la position anarchiste, c'est effectivement plutôt de dire, voilà, le pouvoir a tendance à corrompre, a tendance à changer les idéaux, à les faire disparaître, et donc nous, notre position, c'est plutôt de dire, il faut faire disparaître toute forme tout moyen de domination pour qu'il n'y ait pas des gens qui soient tentés de s'en emparer. D'autres, d'un point de vue un peu moins, je dirais, théorique, il y a l'aspect que, tout simplement, quand on observe les alternances politiques, on se rend compte qu'il y a bien effectivement une alternance au pouvoir de différents camps politiques, mais il y a rarement une véritable alternative, des politiques véritablement différentes. Si depuis, on va dire, en France, depuis le début de la Troisième République, donc grosso modo 1880, après les premières hésitations, Depuis cette époque-là, on a eu des alternatives, on a voté régulièrement et la misère n'a pas disparu, il y a toujours des gens qui dorment dans la rue. Donc on a du mal à voir en quoi le système représentatif a prouvé son efficacité au fil des années. Donc ça, c'est le premier aspect. Alors qu'est-ce qu'on peut faire face à ça? Une des alternatives qui est souvent évoquée, c'est la démocratie participative. En quoi est-ce que c'est une alternative? C'est l'idée que, la plupart du temps, au niveau local, on va associer les simples citoyens à la décision politique. En général, ça se fait au niveau des communes. À Paris, on a l'exemple du budget participatif. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont eu l'occasion de participer à ça. Et donc, en général, ça, c'est à l'initiative des élus qui disent, bah voilà, il y a un certain nombre de décisions ou un certain périmètre qu'on va laisser à la délibération des citoyens. Ils pourront se réunir et avoir une influence sur la décision. Donc, c'est censé naître d'une prise de conscience que parfois, les élus peuvent prendre des décisions qui ne sont pas forcément au plus proche du peuple ou qui ne conviennent pas à tous. Et donc, on essaye de faire venir les gens. Alors, ce qui a pu être constaté jusqu'ici, c'est que souvent, c'était pas très, très inclusif comme dispositif. C'est-à-dire, quand je parle d'inclusivité, c'est de faire participer tout le monde. En fait, on est dans une société où les gens n'ont pas énormément le temps de participer à la politique. Quand on rentre le soir après le boulot, se taper une réunion sur les budgets et tout ça, ça peut être compliqué. Les gens, en général, les moins éduqués, les moins politisés au départ, sont aussi ceux qui participent le moins. Donc on a plutôt des gens éduqués ou alors des retraités, qui sont souvent aussi des gens éduqués qui participent. Et donc il n'y a pas une très grande représentativité dans cette démocratie participative, au sens où toutes les catégories de la population participeraient également et aussi activement les unes que les autres. Donc ça, c'est évidemment un premier problème. Par ailleurs, ce qui a pu être constaté, là je ne parle pas de par moi ou nous spécifiquement au groupe, mais il y a plein d'études, hein, des gens qui ont observé des débats participatifs et ce genre de choses, et qui se sont rendus compte que très souvent c'était quand même très 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 encadré par le pouvoir politique et les élus, qu'ils avaient une vision de comment les choses devaient se passer, même de à quelle décision il fallait arriver. Et donc tout était bien canalisé pour qu'à la fin les décisions ne soient pas complètement contraires à ce que les élus espéraient, où on faisait intervenir des experts qui ont un poids très fort dans la discussion. C'est-à-dire qu'il y a l'expert qui a étudié la question sur si on construit la chose de cette façon, ça va, si on la construit de cette façon, ça ne marche pas. Et donc, face à ça, les citoyens qui arrivent, qui ne sont pas eux des experts, qu'est-ce qu'ils peuvent dire? Si de toute façon on vous dit, bon bah en gros, il n'y a pas tellement de choix, ça doit être comme ça, on peut faire de la démocratie participative, mais que dire? Voilà, et souvent l'impression est assez vraie que on nous invite à participer à des décisions déjà prises, ou en tout cas avec un spectre de possibilités de choix très, très faible, soit des décisions sans portée. Parce qu'en fait, on va pouvoir décider que sur un aspect pas très important, pour les budgets participatifs ou ce genre de choses, l'exemple qu'on a toujours, c'est on va pouvoir choisir la couleur des bancs, mais même pas à l'endroit où on va les poser, quoi. Donc voilà. Donc ça, c'est la démocratie participative qui naît d'une bonne intention. Enfin, ça pourrait naître d'une bonne intention, mais souvent ça naît d'une mauvaise intention. En fait, ça naît d'une volonté de mettre un peu de vernis de participation dans le gouvernement représentatif, plus qu'autre chose. Alors, autre alternative à nos élus qui décident dans le Parlement et qui bien souvent sont coupés de la population pour plein de raisons. On pourrait en discuter aussi, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais en tout cas, bon, la politique est largement devenue un métier qui nécessite des compétences, des connaissances et qui font que quand on se spécialise là-dedans, on s'éloigne de toute façon un minimum de la vraie vie, entre guillemets, en tout cas de la plupart des gens qu'on est censé représenter. Et puis quand parfois quand certains font des interviews, vous avez sans doute entendu, avec des élus pour leur demander le prix du pain, tout ça, on entend le pain au chocolat, ça coûte 5,50 € ou alors ça coûte 50 centimes. Enfin, en tout cas, les gens qui ont peu la la notion du quotidien et de la revivre. Alors, je dis évidemment, c'est pas le cas de tous les élus, mais on constate quand même, en tout cas, une forte dissimilarité entre la population française dans son ensemble et les gens qui sont au Parlement. Et ça vient du fait que on élit les meilleurs et ceux qui semblent les plus compétents ou qui savent le mieux parler, ce qui n'est pas forcément ceux qui représentent le plus les gens censés les élire. Donc, autre alternative que la démocratie participative, il y a le référendum. Référendum qui, évidemment, dans les esprits, correspond bien à cette idée d'une démocratie, démocratie qu'on dit maintenant directe, parce qu'en opposition à la démocratie représentative, même si la démocratie représentative, comme je le disais, n'est pas vraiment démocratique. Donc il y a vraiment l'idée que quand on s'assemble et qu'on décide directement, on est dans une vraie démocratie. Alors il faut rappeler que bon, le référendum en France n'a pas toujours été utilisé pour des questions, des prises de décision hyper démocratiques, parce que quand on pense à l'époque napoléonienne, c'était plutôt pour que tout le monde puisse exprimer son amour du chef. Donc voilà, après c'est évidemment pas la seule utilité du référendum. Et on peut imaginer toutes sortes de sujets sur lesquels on peut décider. Un des récents référendums qui avait fait beaucoup parler de lui, c'était celui en 2005 sur le traité constitutionnel européen qui a été rejeté. Après, on a vu effectivement qu'un autre assez similaire avait été adopté sans plus nous demander notre avis, ce qui peut tendre à montrer que le référendum est quand même un moyen peut-être de gratouiller un peu les dirigeants là où ça fait mal et qui amène des décisions qui ne sont pas forcément contrôlées, etc. Actuellement, le référendum en France, ça passe par l'article 11 de la Constitution, je passe les détails. Pendant très longtemps, c'était vraiment à l'initiative des dirigeants, du président ou de l'Assemblée quand c'est pour réviser la Constitution. Et il y a un peu d'initiative populaire qui a été intégrée en 2008, si je ne me trompe pas, mais dans des conditions assez compliquées. Il fallait que des citoyens obtiennent des signatures pour pouvoir porter à l'Assemblée un projet que l'Assemblée pouvait ou non accepter de discuter. Donc bon, ça reste assez limité. D'où l'idée qui a émergé d'initiative citoyenne réelle, c'est-à-dire une fois qu'un certain nombre de citoyens s'est réuni et a décidé d'organiser un référendum, c'est pas le Parlement qui va l'autoriser, ça se fait automatiquement. Évidemment, il y a un garde-fou à ça pour pas que tout le monde puisse lancer un référendum pour n'importe quoi, qui est un nombre minimum de citoyens. Il me semble que c'est 700 000 le chiffre qui est proposé actuellement dans le cadre du RIC. Donc ça évite que 50 personnes se disent « Ah tiens, on pourrait décider ça, on pourrait voter sur ça » qu'on organise des référendums pour tout et pour rien, sachant aussi que à l'échelle d'une nation comme la France, un référendum, c'est un coût non négligeable à organiser. Donc si on décide d'en faire toutes les semaines, je pense qu'il faudra plus que la taxe carbone pour le financer. Alors le référendum, a priori,
Avec les rafales, trop important l'organisme.
avec un rafale, bon. On pourra discuter, hein, ça fait partie des choses qu'on peut discuter. Comment financer le RIC si on en fait toutes les semaines? Une des questions qui se pose avec le référendum, qui est la même que la démocratie représentative en général, c'est comment est-ce qu'on tranche pour des décisions? Un référendum, en général, on nous demande de dire oui ou non à une question. Oui ou non, c'est un choix tout à fait binaire, et donc la logique, ça va être d'essayer de construire une majorité. Pour faire passer soit l'un, soit l'autre. A priori, plutôt le oui, parce que si on lance un référendum, c'est en portant un projet, donc la question sera plutôt est-ce que tout le monde est d'accord avec ce projet ou non. Mais en tout cas, on est bien dans le cadre du débat majoritaire tel qu'on le connaît en France avec notre gouvernement représentatif, avec un système majoritaire, c'est-à-dire essayer de dégager un camp et d'imposer une volonté. Avec la loi de la majorité. Alors, est-ce que une première question par rapport à ça, c'est est-ce que véritablement décider oui ou non, c'est faire un vrai choix politique. Est-ce qu'on, enfin, on tranche, c'est sûr, mais est-ce qu'on est vraiment dans l'ordre de la décision politique? Ce qui amène à donc, une deuxième question. Si on estime que, effectivement, si il y a 700 000 personnes qui décident de poser une question et qu'après, on doit tous juste décider si c'est oui ou si c'est non, comment est-ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'on pourrait faire mieux que ça? Est-ce que le fait d'organiser un référendum empêche de discuter avant pour essayer d'affiner le plus possible pour ne pas se retrouver face à des choix trop tranchés ou qui, dans lesquels on a du mal à se retrouver? C'est la question donc de la délibération pré-décision. Je rappelle l'effet sondage, ce que j'appelle l'effet sondage, c'est-à-dire qu'il ne faudrait pas qu'un référendum soit un peu comme un sondage, qui est les sondages étant beaucoup critiqués, notamment pour le fait que sonder des gens, c'est très souvent leur poser des questions qui ne se posent pas. Et donc, d'où après la question, que vaut une opinion que les gens n'ont pas véritablement qui a été suscitée. Si moi on m'appelle demain pour me dire, pour me demander qu'est-ce que vous pensez de la politique d'Emmanuel Macron par rapport à, je sais pas, l'Iran, c'est pas un truc sur lequel je me suis spécialement renseigné. Voilà, je vais peut-être dire bon bah il me semble qu'il a une position plutôt mesurée, je veux dire plutôt satisfait, enfin j'en sais rien. Et est-ce que l'agrégation de réponses un peu comme la mienne fait vraiment une opinion publique? On peut en douter. Avec le sondage, ça risque d'être un peu la même chose, c'est-à-dire 700 000 personnes, c'est beaucoup, mais à l'échelle de la France, ça fait quand même encore, je sais pas, 30 millions d'électeurs qui peut-être pas réfléchi à la question, quoi. Et donc, si on leur pose la question, comment est-ce qu'on s'assure qu'ils vont faire une décision vraiment informée? Donc, ça pose la question de l'information des participants. Comment est-ce qu'on les informe? Par quels moyens? Est-ce qu'avant chaque référendum, il faut organiser à grande échelle des débats citoyens où tous les gens peuvent recevoir toutes les infos? Est-ce que ça veut dire qu'on va envoyer à n'importe qui, à tous, comme au moment des élections, toutes les professions de foi et tout ça, tous les argumentaires pour le projet? Bon, maintenant, à l'ère d'Internet, c'est plus facile, évidemment, de faire un petit site où il y a tous les arguments, mais en tout cas... Est-ce que ça ne garantit pas que les gens, évidemment, vont l'avoir lu avant d'aller voter? Enfin, donc il y a cette question-là. Comment est-ce qu'on informe? Comment est-ce qu'on s'assure que tous ceux qui pourront aller voter auront vraiment tous les éléments en main pour le faire? Comment est-ce qu'on met en commun? Parce que ça, l'information, c'est vraiment juste l'aspect. On va devoir trancher oui ou non pour tel projet. Et donc, on va vous informer très précisément sur ce qu'est ce projet. Mais on peut aussi imaginer que avant de mettre un projet sur la table, on va réunir les gens pour vraiment décider quels seront les contours de ce projet-là. J'ai pas d'éléments en tête, d'exemple en tête en particulier, mais on peut en imaginer plein. Mais on pense surtout que ce qui serait plus intéressant, c'est qu'une majorité de gens puissent s'être prononcés en amont pour que le projet qui sera ensuite soumis à l'approbation de tous. Et dès le départ, était partagé, était co-construit, et qu'on ne se retrouve pas juste le jour J à dire « Ah oui, mais bon, ok, ça c'est sympa, mais en même temps, ça ne tient pas compte de tel aspect ou tel aspect. » Et que donc, avant que la question soit véritablement posée, il puisse y avoir toute une étape de co-construction. Et ça, comment est-ce qu'on le fait? Les anarchistes ont tendance à penser que l'échelle pertinente de la discussion, c'est pas l'échelle de la nation, et d'ailleurs on conteste même l'idée de nation, on estime que ça, peut-être pas, ça n'existe pas, mais en tout cas ça ne devrait pas exister, et que surtout tout un pays, c'est pas forcément l'échelle la plus pertinente pour décider. Est-ce que forcément les gens de PACA, ils doivent décider quelque chose qui concernera aussi les gens des Hauts-de-France? Je dis la chose assez bêtement, mais vous voyez un peu, est-ce que forcément toute décision doit toujours concerner tout un pays? Est-ce qu'on ne doit pas décider avant tout pour le niveau le plus proche, le niveau local, d'abord pour son quartier, ensuite pour sa commune, après éventuellement pour sa communauté de communes, avant même la région, sans parler d'un niveau plus élevé? Est-ce que le cadre national c'est bien? Parce que quand on habite par exemple en Moselle, ça pourrait être plus pertinent de décider quelque chose avec des Luxembourgeois, quand on est en Alsace avec des Allemands, etc. etc. Voilà. Donc ça se pose aussi. Quelle est l'échelle et quel est le périmètre le plus pertinent pour décider et aussi pour débattre? Parce qu'évidemment, on ne peut pas se réunir à 70 millions sur la place publique pour discuter. Et donc ça doit se faire au niveau local. Et après, comment est-ce qu'on agrège les débats au niveau local? S'il y a des positions hyper intéressantes qui sont portées à Paris et qu'à Marseille, ils ont aussi des trucs super intéressants mais qui sont assez contradictoires, qu'est-ce qu'on fait de ça? Donc voilà, la question de l'échelle pertinente et des modalités de la délibération pour faire en sorte que tout le monde puisse participer, que tout le monde ait suffisamment d'informations pour pouvoir participer et qu'à la fin, tout le monde ait l'impression que son avis a pu être tenu en compte, c'est des choses qui me paraissent importantes et qu'il faudra essayer d'intégrer dans un dispositif tel que le RIC. Mais je n'ai pas du tout de solution, je ne sais pas si d'autres dans le groupe en ont, mais c'est ce que je voulais soumettre à votre discussion éclairée. Voilà, merci. Je vous propose que les choses se passent de façon très fluide, on prenne les tours de parole. Soit vous attendez que l'un ait parlé pour demander la parole, soit on prend les tours qui viennent.
Bonsoir.
Voilà.
Est-ce qu'avant ça,
ouais.
Est-ce qu'avant ça, tu peux reformuler ce que tu souhaites nous soumettre, s'il te plaît, parce que t'es pas trop.
Charles. Si tu veux être enregistré, que tu parles plus.
Ouais, non, mais c'était pas une intervention. C'était pour dire les aspects qui me semblaient intéressants de débattre, mais après, je voulais donner des éléments d'introduction sans forcément cadrer le débat. Après, moi, ce qui me semblait important, c'était quelle échelle et quel périmètre pour la décision. Est-ce qu'un référendum, ça doit forcément toujours être quelque chose pour le niveau national? Comment est-ce qu'on s'assure que les gens qui seront amenés ensuite à participer auront toute l'information nécessaire et comment faire en sorte que tout le monde puisse participer et que leur avis soit pris en compte. Parce que parfois on est prêt à accepter une décision qui n'est pas exactement celle qu'on aurait voulu au départ, à partir du moment où on considère que notre point de vue a quand même été pris en compte, même si on estime que ce n'était pas la solution parfaite qu'on aurait rêvé au départ. Et voilà, et donc la question de l'inclusivité me semble importante. C'était autour de ces questions-là, moi, que j'avais réfléchi, mais c'est encore une fois pas du tout exhaustif et c'est pas, le but n'est pas de limiter la réflexion à ces questions-là. Michel, toi?
Et il faut parler fort pour l'enregistrer.
Quelqu'un veut venir parler après Michel, moi je veux venir après.
Tu parlais du référendum, donc tu dis le choix. Alors c'est une alternative, c'est oui ou non, c'est blanc ou noir, c'est café ou thé, c'est pas un choix. Le choix, c'est au moins trois propositions. C'est thé ou café ou chocolat. C'est oui, non ou merde. Il n'y a pas de nuance. Donc un référendum, c'est quelque chose qui impose, d'un côté comme de l'autre, une décision. Ce n'est pas un choix. C'est ça qui, voilà, donc, c'est là l'élément, je trouve, qui limite. Ah,
tu peux pas les faire.
Non, non, mais il faut sortir.
Mais le survivant,
qui limite. Qui limite une décision, peut dire.
C'est quoi la question? C'est quoi ta question, Michel?
C'est-à-dire, le référendum, c'est pas un élément, c'est une alternative. Un référendum, c'est oui, non. C'est pour ou contre.
C'est jamais quoi la question?
Il n'y a pas de choix. Voilà. Donc, c'est ce qui limite le référendum.
Pas de question.
Voilà, c'est juste un élément.
Je t'ai inscrit après. Ouais. Bon, moi j'étais là. Mais... bah, moi, je voudrais dire deux trucs. La première, c'est que la présentation, je trouvais extrêmement générale parce que
il y a le problème de l'échelle, mais on peut admettre qu'il y a des questions qui se posent à une échelle globale et d'autres pas. Il y a des questions que tu n'as pas besoin de... Enfin, pas besoin. Qu'on peut concevoir de ne pas traiter localement, et d'autres qui sont strictement à traiter localement. Pour prendre des exemples, un référendum qui porterait sur, je sais pas moi, des sujets très généraux comme la peine de mort, par exemple, parce que ça risque de nous tomber dessus, il n'y a pas besoin que ça soit localisé. Enfin, les idées sont bon, d'une part. Donc, je pense que la question de l'échelle, elle est à ajuster en fonction du sujet. Enfin, elle n'est pas absolue, quoi. Et la deuxième chose, c'est que je trouve qu'un référendum est nocif dans la mesure où il impose l'opinion d'une majorité à une minorité, ce que, en tant qu'anarchiste, on n'est pas du tout d'accord pour faire. Je veux dire, si tu te retrouves avec 51% de oui à une question, tu vas faire taire les 49%. Et ça, c'est une totale aberration dans notre façon de voir les choses, quoi. Donc, il n'y a pas de bon référendum, enfin, pratiquement par définition, quoi.
Il y avait
Mohamed,
c'est ça ?
C'est qui
prend le tour de parole ? Alors, attends, je prends les tours de parole. Là, j'ai François, attends. Charles, Christian. Ouais, ouais, ouais. Après, après qui ? Toi, Mohamed, tu.
Oui.
Et moi, je viens aussi.
Et il y a le monsieur.
Oui.
Sinon, on peut faire un tour. Alors, de tout.
Attends. Ça, c'est... Moi, je trouve ça très marrant parce qu'on ne parle pas des. Qui c'est qui demande le RIC en ce moment ? C'est les gilets jaunes.
François, ça sert à quoi de faire un...
C'est François, c'est ce que
je suis inscrit. Calme-toi. C'est les gilets jaunes. Alors, je ne sais pas en quoi ce genre d'échange que nous avons pourrait les éclairer, parce que ils veulent, certains d'entre eux en tout cas, demandent le RIC. Mais un RIC sur quoi ? Parce que la vraie question, c'est sur quoi ? Tu ne peux pas trouver un référendum qui pose la question, qui résolve tous les problèmes qui sont en jeu. Alors donc, ça veut dire qu'on en évacue un nombre très important. Donc je pense que pour répondre aux gilets jaunes, il faudrait leur dire quelle est la question que vous voulez voir poser dans un référendum, sachant qu'il n'y aura qu'une question posée. Alors que vos revendications sont, à juste titre, humaine, multiple.
Voilà. Donc, je peux éventuellement.
Ouais, vas-y, parce que là, on est perdu, tout le monde veut parler de toute façon, donc essayons de faire.
C'est juste un petit point par rapport à ce que tu viens de dire. Enfin, sauf erreur, je ne crois pas qu'ils veuillent un référendum sur un sujet. Ils veulent un référendum en tant que mécanisme qui viendrait introduire un peu plus de démocratie dans le système existant.
Ouais.
Et à mon avis, l'enjeu qu'on peut avoir d'un point de vue libertaire, c'est dans quelle mesure cette idée-là peut être un cheval de Troie pour construire une vraie démocratie directe à terme, ou pas. Parce que si ça devient un phénomène de démocratie participative, ça se retourne dans son contraire. Et comme tu disais très bien, on commence à débattre à ce moment-là de choses négligeables et on devient un auxiliaire du pouvoir. Oui, ce n'est pas ce qu'on cherche. Bon, c'est une question pratique. Dans quelle mesure, effectivement, modestement, on peut, nous, penser pouvoir avoir une influence sur la façon dont les Gilets jaunes élaborent cette idée de RIC ? Alors, je ne prétends pas du tout connaître dans le détail ce qu'ils font là-dessus. Hein. J'ai lu quelques trucs et puis d'autres non. Est-ce qu'eux-mêmes sont ambitieux suffisamment pour que leur idée soit intéressante pour nous ? Ou bien est-ce que c'est moins intéressant ? Et dans ce cas-là, effectivement, les
libertaires... Il n'y a pas de gilets jaunes parmi nous. Donc
non, mais ils ne sont pas d'accord entre eux non plus, hein, de toute façon. Ceci dit, j'ai beaucoup aimé dans la présentation deux points qui sont souvent négligés. C'est la nécessité que ça corresponde à un processus démocratique de discussion, de négociation, d'élaboration, etc. Parce que souvent c'est oublié, et des fois les gilets jaunes, ils croient au miracle, quoi. Ils croient qu'il suffit de voter oui ou non pour que ça soit de la démocratie. Et puis, autre chose, je ne me souviens plus. Oui, à l'échelle locale, quoi. Je veux dire, ça c'est super important, quoi, que ce soit pas toujours un débat national en fonction de ce que
normalement c'est
pas. Je voulais remarquer que il y a la question de l'échelle, aussi dans une prise de décision collective, mais il y a aussi la question de la légitimité. Et, enfin, je pense que c'est pertinent qu'une décision soit prise par les gens qui seront impactés par la décision aussi. Et ça, dans un contexte anarchiste, je pense que c'est bien de mettre l'accent là-dessus. Et sinon, bah, je serais d'accord avec Franck sur le fait qu'il n'y a pas vraiment de bon référendum, puisque je vois mal comment est-ce qu'un référendum pourrait ne pas être la majorité qui dicte à la minorité. Voilà.
C'est plutôt une question de compréhension. Est-ce qu'un référendum est par définition une question oui non ou une question qu'affectée, ou est-ce qu'on ne pourrait pas aussi imaginer un référendum beaucoup plus complexe, de qui fait, pourquoi pas 10 pages de questions en détail, qui serait un peu une solution intermédiaire entre le oui-non et entre la co-construction que tu évoquais. Ou est-ce que ça, ce n'est plus un référendum, mais complètement autre chose?
Oui, bah, pour répondre...
Et après, toi, moi...
Bah, déjà, pour répondre à la question de monsieur, c'est oui-non ou merde, hein, ça. Déjà, ça veut montrer que le référendum, alors qu'il soit référendum ou initiation citoyenne, initiative citoyenne, c'est pas un instrument de gouvernement, de toute façon. Ça montre bien que déjà, on ne peut pas gouverner avec du RIC ou du référendum. Et effectivement, la géographie, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est très important, parce que si je reprends l'aéroport de Nantes, par exemple, le fameux aéroport, c'était à l'échelon local au départ, mais c'était un aéroport international qui concernait toute la France. Donc, est-ce que c'était qu'à la région de Nantes de répondre, Édouard, ou est-ce que c'était aussi Hauts-de-France, sinon chez les Hauts-de-France, de répondre ça. Et puis, je rejoins monsieur en disant qu'effectivement, le RIC, tel qu'il est perçu et dit par les Gilets jaunes aujourd'hui, c'est un mouvement de démocratie participative, de démocratie directe, qui ne s'attarde pas sur une question parce qu'ils ne savent pas trop non plus où est-ce qu'ils s'en vont, quoi. Ils ne sont pas d'accord entre eux. Mais que c'était déjà plus un outil de pouvoir dire bah, le peuple va essayer de participer plus, veut s'intéresser plus aux décisions qui sont prises, parce que ça fait X années qu'elles sont prises sans qu'on tienne compte vraiment de la vie, je ne veux pas dire de la nation, du peuple.
Le référendum, c'est important, ça pose beaucoup de questions, mais si je reviens donc au sujet de la discussion, comment décider ensemble, il y a plus grave encore, à 70 millions, comment élaborer par exemple le budget de l'État? Alors, l'avis des, j'ai entendu tout à l'heure les spécialistes, l'avis des spécialistes, ok, mais après, il y a des choix à faire. Le budget de l'État, c'est des choix. Et comment élaborer le budget de l'État à 70 millions, ça, c'est encore plus grave. C'est plus difficile, pardon, que le référendum, qui n'est déjà pas facile.
C'est ce que dit monsieur, c'est... Il y a quelquefois un peu de l'apparence. Quoi. On va dire le budget, on va vous faire participer au budget, mais la réalité, c'est ce qu'on veut, un budget plus social qui dit moins de place pour l'armée et plus de place pour
et puis là, je termine.
C'est juste pour marquer en tout.
Et puis la démocratie participative, moi, d'après ce que j'en sais, je vais parler de deux communes que je connais qui prétendent l'appliquer, deux communes communistes, parce que c'est les seules que je connais, Malakoff et Nanterre. C'est juste pour valoriser l'action de la municipalité. Hein. Moi, c'est ce que j'en ai vu, hein, aussi bien à Malakoff qu'à Nanterre. Hein.
Alors attends, parce que j'entends parler de référendum, mais le référendum pour dire ce que les gens, si j'ai bien compris, toi, ce que tu as compris des Gilets jaunes, c'est qu'ils voulaient un référendum pour leur donner la possibilité d'agir plus directement sur le pouvoir. Oui. Mais ce référendum, il ne s'exercera que dans le cadre d'un pouvoir déjà élu. Oui. Ou alors, est-ce que c'est le référendum qui l'élit? Et dans ce qui est présenté, là, je ne sens pas que ce soit par référendum qu'on va élire les équipes dirigeantes ou les représentants ou les mandatés. Ma question, c'est qui est-ce qui va élire le pouvoir en place, même si on admet le principe de référendum? Voilà.
Je peux donner un petit exemple?
Vas-y.
Un petit exemple que j'invente pas, hein, que j'ai lu dans les histoires de Gilets jaunes.
par exemple, ils risquent de dire, bon, ben, est-ce qu'on peut faire un référendum pour brider et diminuer les privilèges des gouvernants?
Voilà. Ça serait drôle.
Non, mais ils l'envisagent, ils en parlent très souvent d'ailleurs. C'est un exemple, c'est juste un exemple.
Autre exemple, je crois, moi aussi, d'après ce que j'ai lu des Gilets jaunes, c'est qu'ils prévoient des référendums pour révoquer,
oui.
Terminer, enfin,
oui.
Renvoyer
licencier.
Des élus. Voilà.
Ouais. En tout cas, le référendum d'initiative citoyenne, s'il voulait que ce soit aussi une possibilité de révoquer des élus, il faudrait que ce soit prévu dès le départ dans la Constitution. Là, parce que là, l'enjeu, c'est de modifier la Constitution pour donner la possibilité donc, à un certain nombre de citoyens d'imposer l'organisation d'un référendum sur une question qu'ils auront définie. Si en plus il s'agit de révoquer les élus, ça devrait aussi être prévu, parce que ça irait pas de soi que l'un puisse permettre de faire l'autre. Même si après, si la question posée c'était peut-il rester au pouvoir, mais je pense que ça pourrait, constitutionnellement, ça pourrait pas tenir à l'organisation d'une question posée comme ça. Moi, ma position, elle est la même que Franck, hein, qui est de dire que la dictature de la majorité, on n'en veut pas, mais évidemment, je voulais pas présenter la chose comme le RIC, c'est mal. C'était mon angle d'approche, c'était plutôt vu les objections que nous, les anarchistes, faisons à ce type de mode de décision, ou de ce que vous voulez, cet outil de gouvernement, ou je ne sais pas comment l'appeler, comment le penser pour que ça soit le moins incompatible avec nos idéaux, pour l'améliorer le plus possible, donc, y compris en voyant comment en amont on peut le rendre plus inclusif. Et c'est intéressant parce qu'effectivement on pense toujours au référendum oui ou merde. Je ne sais pas comment ça pourrait être imaginé, mais peut-être qu'on pourrait avoir des questions à choix multiples sur plein d'aspects d'un projet. Hein. Est-ce que vous êtes pour ou contre ce projet? Est-ce que ce projet-là, il faudrait que ce soit plutôt ci ou plutôt ça, et plutôt ci ou plutôt ça? Enfin, on peut imaginer effectivement qu'on coche plein de cases. J'imagine qu'après, pour le traitement, ça doit être extrêmement compliqué. Ça reviendrait toujours après à la question de la majorité, mais peut-être encore plus une minorité, parce que plus on peut décliner le choix, plus à la fin on risque de... Si on est pour l'option 1, B, petit A, alpha et petit je sais pas quoi, à la fin il restera 3% de la population qui est vraiment pour cette option-là et qui gagneront face à tous les autres qui n'auront eu que 2,1%. Enfin, donc je pense que ça peut être envisageable. Après, en pratique, comment est-ce que ça peut être fait? Et est-ce qu'on finira pas par laisser décider ceux qui sont juste les plus... qui sont majoritaires, même s'ils représentent une très très faible partie de la population. S'il doit y avoir une dictature de la majorité, à la limite, il vaut mieux que ce soit celle de 50% plutôt que de 3% de la population. Mais l'idée en elle-même est intéressante, et je pense que dans cet esprit-là, on peut réfléchir. Moi, mon idée, c'était plus qu'en amont de la question, on ait fait en sorte qu'il y ait eu tellement de débats que le projet qui sera présenté est déjà censé représenter vraiment bien la population, et ce qui devrait après se traduire par une participation forte au référendum et une majorité genre de 95%, parce qu'en fait on était déjà tous d'accord au moment où on a posé la question, parce qu'on avait vraiment conçu ensemble. Ça, c'est ce qui me semblerait le plus proche de l'esprit anarchiste.
Alors Michel, François, Elisabeth, Élodie et moi.
Quand je reviens sur le problème du référendum, là, quand on parle de ça, c'est pas une consultation générale. Un référendum, c'est une question qui est posée, c'est répondre pour, contre, oui ou non. Ça qui me dérange beaucoup sur le référendum, souvent le référendum, est comme tu le disais toi-même, pour les pouvoirs, c'est un plébiscite. Souvent, c'est mis en avant pour pouvoir plébisciter une politique ou un choix, voilà. Alors, maintenant, qu'on m'explique, le référendum est démocratie directe. Quel est le lien entre... Est-ce que le référendum est un exemple de démocratie directe? Moi, j'en doute fortement. Ouais. C'est ce que je voulais dire.
Bonsoir. Justement, c'est bien que tu dises ça, parce que c'est de ça que je voulais parler. C'est qu'à mon avis, il va falloir jouer finaux. C'est-à-dire, s'il y a vraiment un RIC qui est mis, il va falloir super bien le choisir. Et l'idée que je proposerais, si j'avais l'occasion de le faire, ce qui ne se passera pas, c'est que, eh bien, ce référendum, ça serait est-ce que vous êtes pour un système d'élection de représentation directe ou pas? Est-ce que vous voulez mandater les gens que vous élevez et qu'ils aient un mandat impératif, c'est-à-dire que vous puissiez les virer s'ils ne remplissent pas les promesses qu'ils ont faites? J'imagine bien un référendum de ce type. Choisissez soit une démocratie où les gens peuvent être virés s'ils ne remplissent pas leurs promesses, et ou bien une démocratie telle que maintenant, représentative, je suppose que ça sera ça. Voilà.
Elisabeth.
Je ne sais plus trop ce que je voulais dire. Je crois que c'est par rapport au ce qu'on dit à la dictature de la majorité, mais et tu disais aussi que si les choses étaient extrêmement discutées, préparées en amont, etc., dans l'idéal, on aboutirait à une espèce de synthèse, enfin, voilà. Mais je pensais par exemple au référendum qu'il y a eu en Irlande, il y a quelques mois, sur l'avortement, où là, la réponse était oui ou non. Finalement, le oui l'a emporté, et là, c'est donc la dictature de la majorité par rapport aux gens qui sont contre l'avortement, et tant mieux.
Si ça aurait été non, ça aurait été tant pis.
Oui, voilà, mais...
Alors, en fait, j'ai évité la discussion des sondements. Vous avez peut-être moi, c'est plutôt. Alors, déjà, un, est-ce que ce référendum, il doit continuer uniquement sur le mode de gouvernance, enfin, comment on organise un gouvernement, une gouvernance, que ce soit le cas, ou est-ce que c'est sur des questions de société? Et si c'est sur une question de société, comment on fait pour. Dans quelles conditions on prépare la question posée dans le référendum? Parce qu'en effet, il y aura peut-être une majorité, je vais faire mon avant-gardiste, je ne sais pas comment dire, souvent, par exemple, dans l'avancée des lois, la mise en place de lois progressistes, elles ont été prises contre l'avis de la majorité, contre l'avis général de la population, ouais. Et la loi a fait... au fur et à mesure, avancer les mentalités. Donc, avortement, viol, prostitution, par exemple.
La peine de mort.
La peine de mort, voilà. Et c'est juste, c'est ça, pour moi, c'est ça qui me pose question. Et comment, avec la peur, enfin, c'est très, très, bon, très, 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 mais avec la peur qu'en gros, à un moment, on puisse être, enfin, comment on fait, ouais, pour préparer ces questions, que les gens prennent. Une position en toute conscience, enfin en toute conscience d'une question sociale de nous. C'est ça, donc je me demande comment.
Donc ça, oui, c'est à moi. Oui, alors pour les gens qui ne sont pas. Peut-être que vous êtes surpris de la manière dont on.
Non,
parce que les anarchistes ont la réputation d'être bordélique, mais justement dans les discussions on fonctionne toujours comme ça, avec des tours de parole pour éviter que tout le monde voilà. Moi je voudrais dire réagir sur plusieurs choses qui ont été dites. D'abord François, tu dis le référendum, j'ai l'impression qu'on parle toujours de un référendum, mais je pense pas que ça soit l'idée. L'idée c'est de donner la possibilité qu'il y ait des référendums, c'est pas de faire un référendum voilà. Et puis fini, bah, quoi.
T'as compris mieux que moi, parce que moi, j'avais pas du tout compris.
Non,
c'est sûr. Ils veulent référendum en toute matière.
Oui, voilà, ils veulent la possibilité de faire des référendums. Ils veulent pas un gros référendum, puis c'est fini, quoi. Enfin, voilà. Et moi, personnellement, c'est le seul truc que je trouve intéressant dans l'affaire. C'est-à-dire que ça, le seul truc que je trouverais un peu positif là-dedans, c'est de ça ouvrirait peut-être des portes à des discussions entre les gens. Voilà. Et de faire en sorte que ça politise, entre guillemets, davantage les gens. Les gens, je ne sais pas si c'est un bon terme, mais enfin, c'est ce que je veux dire. Quoi. Voilà. C'est à peu près le seul truc positif que j'y vois. Quant au système des mandats révocables, à l'échelle d'un pays, ce n'est pas jouable, je pense. C'est jouable à l'échelle d'une petite communauté où on sait ce que font les gens, ce que machin. À l'échelle d'un pays, c'est juste.
On ne peut pas évoquer un député.
Parce que trahir les promesses, alors faudrait que. Je veux dire, si un représentant se fait élire, ouais, je te marque, si un représentant.
René aussi.
Ok, oui, alors mais je connais pas vos noms. Alors,
Gabriel,
ok. Gabriel, Elisabeth, madame.
Alors, tu me le demandes à chaque fois.
René, Elisabeth,
d'abord, personne ne nous écoute et en plus, ça ne passe pas.
Parce que, histoire de vérifier les promesses, ça va être un foutoir sans nom. Imagine, je veux dire, tu es dans le système actuel, tu élis un député pour qu'il te représente sur strictement tout. C'est-à-dire sur toutes les questions qui vont de du budget, de la défense nationale, de la politique étrangère, de la politique énergétique, de la politique écologique. Ils sont censés te représenter sur tout. Sur l'ensemble des promesses, des options qu'ils prennent et sur lesquelles ils vont se faire élire, ils vont peut-être changer sur un point, mais pas sur les autres. Alors, est-ce que changer sur un seul point, ça veut dire que tu les révoques quand même? Enfin, ça devient un bazar, c'est pas jouable. Ça, tu peux le faire à une petite échelle, parce que tu discutes avec les gens. À l'échelle d'un pays, c'est juste pas jouable. Il vaut mieux renoncer carrément au système représentatif. Mais un système mandataire, impératif, à l'échelle d'une nation, moi, je vois pas comment ça peut fonctionner. Voilà. Et après, c'était Charles.
C'est incroyable ce que j'entends. Moi, je suis pas sûr que ce soit très pertinent pour les anarchistes de s'intéresser au RIC ou au référendum ou à ce genre de choses, parce que imaginons que ça s'organise comme ça, que à partir de 2020, il suffirait qu'il y ait 700 000 personnes qui proposent un projet pour qu'il y ait un référendum, etc. Ben, ce sera sans doute un gouvernement plus démocratique, mais ce sera toujours un gouvernement. Toute la critique anarchiste, elle est beaucoup plus fondamentale qu'une critique de la représentation, en fait. C'est une critique de l'autorité, carrément, la critique anarchiste. Et donc les institutions comme le capitalisme et l'État existent toujours. Donc je me demande si ça n'entretient pas un peu une confusion d'un côté avoir un discours révolutionnaire et puis aussi de pousser pour ce genre de réforme, quoi. Donc voilà, c'est...
Oui, d'abord juste un petit point pour mémoire. Dans la littérature jaune, j'ai lu qu'il y en avait parmi eux, en tout cas, qui concevaient le RIC sur un plan législatif, constitutionnel, abrogatoire et révocatoire. Donc vraiment, c'est très ambitieux. Et alors, ça mène à la question suivante, c'est que, imaginons que dans le meilleur des cas, les Gilets jaunes réussissent majoritairement, collectivement, à élaborer un projet de RIC qui soit effectivement ambitieux et qui permette à la population de s'introduire dans le mécanisme politique. Parce que ça reviendrait un peu à ça quand même. En face, quelle va être la réaction ? Ça sera non, bien évidemment, parce que eux, le référendum, ils le conçoivent comme celui qui existe déjà, c'est-à-dire que c'est eux qui prennent la décision, ils font voter les gens, ils posent la question, ils font voter les gens, et après ils se réservent en plus le droit de dire ben non, c'est pas très intéressant. Donc eux, ils seront contre, parce que, alors je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure, effectivement, bon, le pouvoir corrompt et eux, ils se représentent qu'eux-mêmes, ils se représentent pas qu'eux-mêmes, ils représentent surtout les lobbies et le capital. Et donc, ils ont une mission à accomplir de ce côté-là. Et donc, ils ne peuvent pas y renoncer. Et donc, ça, pour eux, c'est un chiffon rouge. Parce que là, c'est plus. Ils seraient obligés de nous représenter, nous, pour la première fois, et de plus représenter les lobbies. Autant je trouve le projet intéressant, autant je ne suis pas optimiste. Parce que pour faire passer un projet pareil auprès des gouvernants, il faudrait vraiment que ça soit très costaud. Hein.
François. Bah oui, bah c'est. Je suis d'accord avec toutes les remarques, mais ça ne répond pas à ma question. Est-ce que c'est... J'ai entendu ce que tu disais, que vous avez émis l'hypothèse qu'on pourrait faire des référendums sur plein d'aspects de la vie politique. Mais en tout cas, ça ne répond pas à la question. Dans quel cadre d'élection ça se passe? On ne sait toujours pas s'il y a ces référendums. Est-ce qu'on va les proposer ou les imposer à des régimes, à des gouvernants qui auront été élus représentatifs ou autrement. Je veux dire, oui, on n'a pas avancé là-dessus. On est toujours dans un système représentatif. Oui. Et, ah oui. et on y court des référendums. Ah voilà. Oui. Eh bien, bon, voilà. Non, le premier référendum, c'est abolir le. Oui. Proposer autre chose que le représentatif. Ça, ça me semble évident.
Alors, j'ai dans l'ordre, j'ai Gabriel, Elisabeth, René.
Oui.
Ouais.
Ouais.
Et Simon, après.
Pardon. Il m'a oublié, alors.
Et de
oui,
oui, c'est à toi.
En fait, effectivement, c'était plutôt. Je suis assez d'accord avec ce que Jean-Pierre, en fait. C'était pour préciser quand même. En fait, ce RIC, à l'origine, il a été adopté par les Gilets jaunes. C'est quand même Étienne Chouard qui a un petit peu. À l'origine, on l'a pas.
C'est une influence, lui.
Oui, il a quand même sérieusement influencé.
Il n'est pas tout seul, mais beaucoup.
L'affaire.
Oui.
Et enfin, il est considéré aujourd'hui un peu quand même pas mal comme l'initiateur de ce truc-là. Donc, effectivement, c'était quand même bien de préciser d'où ça venait aussi.
Oui, oui, tout à fait.
Peut-être
oui.
Qu'effectivement, les Gilets jaunes se l'ont appropriés. Donc, il y a le côté, je voulais rajouter aussi, il y a le côté vachement émotionnel. C'est peut-être le rôle souligné dans un référendum, on parlait de la peine de mort, effectivement, s'il y a un massacre d'un gamin juste avant, c'est sûr qu'il y a juste avant le vote, ça va merder. Hein. Donc ça compte énormément dans le truc, et il parlait effectivement de mettre des délais. Il y a un délai, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est le délai, c'est la préparation qui va être vachement importante entre le moment où tu vas prendre la décision et où il y a toute une préparation.
Ça, ça rejoint ce que tu disais sur l'élaboration.
Et l'élaboration, et même, enfin ça, la peine de mort, ça tout le monde comprend, mais des sujets qui sont beaucoup plus compliqués, et dans quel cas ça nécessite aussi de faire appel à des gens qui sont spécialistes et de déléguer. Donc, ensuite, on aura de. On ne peut pas répondre à toutes les questions, je pense, peut-être.
Si elles sont bien élaborées.
C'était toute la difficulté de jouer avec les embryons ou pas avec les embryons. D'un côté, ça peut sauver des vies, et d'un autre côté, ça peut. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? C'était ça. Des fois, il me semble que ça se bute à ce niveau-là.
Oui, moi je me disais, on est en face de la question de la préparation des questions, pour qu'elles soient très complexes. Et est-ce qu'on n'en arrive pas obligatoirement à se poser la question d'une révolution institutionnelle beaucoup plus globale? C'est-à-dire, comment faire? Si on veut avoir des rites souvent, il faut bien qu'il y ait d'abord des gens qui se rassemblent, qui discutent, qu'il y ait des débats. Et est-ce que c'est pas un premier pas pour se poser la question comment on va quelles sont les nouvelles institutions qu'il faudra mettre en place, des assemblées à quel niveau, bon d'abord communales, d'abord régionales, puis nationales, et puis les assemblées, comment elles sont élues, ou elles sont tirées au sort. Est-ce que c'est une assemblée qui peut donner des projets de loi? C'est ces questions fondamentales. On arrive, en se posant une question du RIC, on arrive à la question de l'organisation institutionnelle globale, de cette révolution globale des institutions.
Changer la Constitution, quoi.
C'est pardon?
Il faut changer la Constitution.
Oh, oui, bien sûr, changer la Constitution, bien sûr. Et là, c'est bien, il me semble que les anarchistes, notamment, peuvent bien avoir leur mot à dire pour savoir comment on organise, parce qu'on ne peut pas se contenter de dire on ne veut pas d'État. Comment on fait à la place? Donc, qu'est-ce qu'on fait?
Simon, Mohamed. Moi, j'ai dans la liste les Simon puis Mohamed. Mais après, je prends encore. Hein, prenez. Si
tu n'avais pas demandé la parole.
Denis.
Non, Elisabeth, elle s'est enlevée.
Absent. D'accord. Là, ça va.
Moi, c'est Claude. C'est à toi.
Oui. Moi, c'est Claude.
Claude, ok.
Il y avait plein de trucs auxquels je voulais répondre, mais c'est difficile de se rappeler de ce qui a été dit à 5 interventions. Si effectivement la possibilité d'organiser des référendums d'initiative citoyenne, ça donnait aussi la possibilité de révoquer des élus, je pense qu'on risquerait d'en faire toutes les semaines. Parce que... Non mais enfin, c'est comment ne pas trouver des élus qui n'auront pas satisfait suffisamment d'électeurs partage ton idée, ça impliquerait réfléchir à un autre moyen. Pour tout ce qui a été souligné comme des avantages potentiels, je suis très sceptique vis-à-vis de l'outil du référendum. Et comme tu disais, effectivement, les lois qui ont été avant-gardistes, tout ça, c'est... Est-ce que quelqu'un qui aurait le courage de lancer une loi, une nouvelle loi très avant-gardiste qui crée de nouveaux droits, est-ce qu'il ne court pas le risque que derrière il y a un référendum et hop, ça s'est abrogé immédiatement et puis on serait toujours à attendre la pilule pour le futur? Ça c'est une question problématique. Et le fait que ce soit vraiment un outil qui est beaucoup prôné par les mouvements dits populistes, c'est aussi un peu inquiétant parce que tu te dis que à la fois ça flatte le peuple parce que tu dis oui voilà je vais participer plus, on va enfin me demander mon avis directement sur certaines questions, et en même temps il y a toutes ces idées d'émotion, il y a tout le fait que c'est un truc énorme, on a l'impression. Peut-être que ceux qui promeuvent ça, c'est parce qu'ils pensent que ce sera assez facile de manipuler, plus facile de manipuler l'opinion pour voter dans un sens ou dans un autre, sous le coup de l'émotion, sous le coup de la mésinformation, et pour arriver à des résultats encore pires qu'une démocratie représentative. Et puis, quid de ce qui se passerait réellement parce que le RIC tel qu'il est pensé actuellement, c'est effectivement en gardant une démocratie représentative qui, du coup, deviendrait semi-directe, parce qu'il y aurait un mélange de démocratie directe et de démocratie représentative. Et donc, il y aurait toujours des élus qui feraient leur boulot au quotidien. Enfin, leur boulot, vous l'entendez comme vous voulez. Et puis, de temps en temps, il y aurait des référendums. Et je pense que ces référendums-là, ils prendraient une importance sans doute disproportionnée par rapport à tout le travail politique qu'il y a derrière. Et finalement, peut-être, ça ferait disparaître le quotidien et les magouilles des hommes politiques en place et de nos dits représentants. Parce qu'on mettrait l'accent sur, oui, on va poser cette question-là, le référendum sur je ne sais pas quel nouvel aspect, faut-il autoriser les embryons ? Et qu'après, peut-être que ça permettrait encore plus de faire passer en loose day par derrière les trucs moins médiatiques auxquels on s'intéresserait plus trop, les médias en parleraient beaucoup moins. Voilà, ça, c'est aussi un risque, ça, c'est que les questions posées au référendum soient vraiment sur le devant de la scène et que tous les autres trucs plus quotidiens et plus banals, finalement, on n'en parle plus trop, alors que c'est des questions aussi très importantes. Et voilà, et effectivement, en tant qu'anarchiste, moi, je préférerais qu'on décide localement et d'autogestion que le référendum.
Alors, sur les conditions, d'utilisation donc du référendum, bien évidemment, il faudra une réforme constitutionnelle. C'est la Constitution, un débat qui devra dire dans quelles conditions on peut utiliser le RIC. On ne peut pas l'utiliser pour tout et n'importe quoi. Alors, comment, une fois que la réforme est faite, comment s'en servir de cet outil? Ben, à l'heure d'Internet, je pense que ça ne devrait pas être très compliqué de lancer l'idée d'un référendum sur tel ou tel sujet. Ça touche des millions et des millions de gens. Alors, le deuxième point que je voulais évoquer, parce que je l'ai entendu plusieurs fois, le débat en assemblée, c'est 50% qui écrase 49%. Je l'ai entendu plusieurs fois. Je voudrais juste rappeler je vais expliquer un fait qui remonte à 25 ans. Il y a 25 ans, quand est né le mouvement des chômeurs et des précaires, ce qu'on a appelé le mouvement des recalculés. Donc, il y avait de la contestation parce que des gens qui avaient droit au chômage, du jour au lendemain, on leur a dit bah non, dorénavant, au lieu d'avoir droit à 80 euros par jour, tu n'auras droit qu'à 25 euros. Il y a un mouvement de contestation qui est né et les gens ne savaient pas se battre, ne savaient pas lutter. Les trotskistes sont arrivés en disant ne vous inquiétez pas, nous on sait faire, suivez-nous, faites ce qu'on vous dit et vous allez voir, nous on sait faire des tracts, on sait faire des banderoles, etc. etc. Et puis. Exécuter les ordres qui arrivent d'en haut. C'est un système à la verticale. Ça a duré quelques années. Et puis, au bout d'un moment, il y a des libertaires qui ont commencé à venir. Une fois qu'ils se sont sentis assez forts, ils ont dit au Trotsko, stop, les décisions se prennent en AG. Il n'y a pas de chef suprême. C'est fini. Alors, résultat, on s'est tapé. Alors, ça ne s'est pas fait dans la douceur, hein, autant le dire. Hein. Des fois, ça s'est terminé à coups de chaise dans la tête, hein, faut le savoir. Mais après, on s'est aperçu que ça fonctionnait beaucoup mieux que les ordres des Trotskos qui venaient d'en haut. Il y avait donc des assemblées générales parce que c'était au niveau de toute la France. Hein. Et après, il y avait des coordinations, où des représentants des différents collectifs venaient. Et une à deux fois par an, il y avait une assemblée générale. Et ça marchait beaucoup mieux que le système à la verticale des trotskistes.
J'ai Denis, Claude. Denis, Claude. Après, il y a moi. Et s'il y a quelqu'un qui veut, Simon.
La question d'installer un référendum, c'est pas très difficile en fin de compte. Mais ce qui importe, je pense, c'est la question qui est posée, les questions qui sont posées en amont du référendum. C'est une chose.
Qu'est-ce que tu veux dire en amont ?
Enfin, avant l'utilisation de l'outil référendum, il y a des questions qui sont posées, qui sont. On organise le plébiscite, en fait, dans cet ordre-là. La question, le référendum et la réponse. Et ces questions, c'est ça qui me paraît. Contenir tout le sens que peut avoir quelconque référendum ou une manière de voter tel ou tel, enfin de décider de quelque chose. Et ce sont bien ces questions-là qui sont, pour moi, le référendum, c'est de moindre importance, dans le sens où, par exemple, si on bon, les gilets jaunes, disons, ça part d'un mouvement qui est c'est le français moyen qui pensait avoir rempli son contrat social. Il a ses enfants, sa voiture et tout, et puis même là il n'arrive pas à s'en sortir. Donc, c'est de là un peu qu'est parti le mouvement, et puis après ça a évolué vers commercial. Donc, par exemple, effectivement, si on arrivait à installer un système de référendum, et puis, ça pourrait constituer un espèce de raccourci qui permettrait, par exemple, de dire ensuite, est-ce qu'on peut, maintenant, est-ce qu'il faut virer Macron ? Bon, alors, du coup, le référendum serait majoritaire, je suppose, pour le oui. Quoi. Enfin, ça dépend. Bon, mais ça, c'est très gilet jaune comme ambiance. C'est-à-dire qu'après, les questions des assemblées décisionnaires locales, la question de la révocation des élus, etc. Ouais. Enfin, de toute façon, tout le sens de ce procédé du référendum est dans les questions qui sont posées. Et pas dans le...
Ça a déjà été évoqué.
Ouais. D'accord.
Pas dans la discussion.
Ah, pardon. Alors, dans ce cas, j'ajouterais un autre truc, c'est Émile Pouget critiquait le démocratisme. C'est-à-dire que parfois, dans un syndicat révolutionnaire, on attendait un peu trop souvent, selon lui, d'un nombre assez important d'ouvriers, d'ouvrières, pour prendre une décision de sabotage ou de grève, etc. Et Pouget prenait plus une action directe qui consistait à ne pas passer par le processus démocratique, mais à être à certains seulement, mais pour le bien de tous, agir.
Non, mais ça directement. Sabotage, tu parles de sabotage.
Oui, mais voilà.
Je ne pense pas qu'il soit anti.
Non, alors, c'est pour faire la relation avec le référendum, le principe même qui est une forme de démocratie, de pratique démocratique. Et donc là aussi, on peut critiquer, mais dans ce sens-là, on peut critiquer le RIF dans le sens où ce serait un peu peut-être pas trop démocratiste, peut-être.
Ça serait pas trop parce que c'est trop lent. Parce que
ça génère de la lenteur.
Bonsoir.
Mais là, il disait ça dans un processus révolutionnaire. Oui, pardon. Oui, excusez-moi.
Il n'y a pas de souci. J'ai fini.
C'est difficile de répondre parce que ça tourne. Hein. Et moi, ce que j'ai compris, là, c'est que, ici même, j'ai pas de culture d'anarchie. Hein. Et j'ai compris qu'on disait, bon, il y a le RIC, le référendum, le RIC, avec tous les problèmes de comptage, de majorité qui vient écraser une minorité. On a parlé de système à choix multiples, à questions multiples. Mais dans votre introduction, vous avez dit que quand il y a un truc de 13 pages, personne ne va le lire. Parce qu'on s'adresse aussi à tout le peuple, quoi. Il faut aussi régurgiter 13 pages essayer de comprendre et s'y intéresser. Tout le monde ne s'y intéresse pas non plus. Puis ensuite, j'ai compris qu'il y avait le RIC s'inscrit dans, je veux dire, les institutions telles qu'elles sont aujourd'hui, mais qu'il faut élargir le problème, c'est dire non. Pour que le RIC puisse fonctionner ou que la notion de référendum à définir, hein, puisse fonctionner, il faut revoir les institutions, parce que les institutions de la 5e République, elles ne sont pas faites pour gouverner comme ça, elles sont faites pour avoir des représentants. Parce que sinon, on n'y arrive pas. Et gouverner aussi avec des RIC, enfin moi ça me rappelle la 3e, enfin, je ne l'ai pas compris, 3e, 4e République, où le gouvernement et le chef de cabinet étaient à la solde de l'Assemblée, et on tombait un peu dans pour faire plaisir à l'Assemblée, parce que si on ne fait pas plaisir à l'Assemblée, on sautait. Et là, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, on tombe un peu aussi dans le populisme. Et je parle donc, je pense au référendum révocatoire, c'est un peu le consumérisme, oh, bah, si il ne me plaît pas, il a fait un an, je l'enlève. Quoi. Et conduire un pays, une nation comme la nôtre à 70 millions d'habitants, je ne vois pas comment on va faire si tous les jours, toutes les semaines, on commence à faire voler les représentants. Et la problématique de la représentation quand même. Donc j'ai pas de solution, hein. Je vous écoute, mais pour ça, je n'ai pas entendu de solution non plus.
Alors, je voudrais juste, bon, c'est mon tour, mais juste pour répondre à votre dernier point, en fait, les pays qui ont fonctionné avec des régimes parlementaires stricts, avec donc il y a eu la 3e, la 4e en France à peu près, puis il y en a eu d'autres ailleurs, en Italie, etc. C'est vrai que les gouvernements changeaient toutes les semaines, tous les 15 jours, mais ils faisaient exactement la même politique. Hein. C'est-à-dire que c'était une espèce de valse, mais pour faire exactement la même chose.
Tout à fait. Ouais.
Alors, je voulais répondre à Mohamed, parce que tu as évoqué Internet. Alors là, moi, je suis personnellement. Non, tu vois, parce que. Et l'exemple de ce soir, pour moi, en est un bon exemple. Tu vois, parce que même si ce qu'on fait entre nous, là, n'est pas parfait, mais on a une discussion. D'abord, on se voit et on est en chair et en os, ce qui est déjà important. C'est déjà bien. Et puis, imagine d'essayer d'échanger les arguments comme on fait ce soir par Internet, c'est un enfer. C'est juste impossible. Voilà. Moi, les histoires de dialogue soi-disant démocratique par Internet, je n'y crois pas une seconde. Enfin, François, je te remets. Ouais.
Ah oui, mais pourquoi tu dis ça alors que la plupart, enfin, beaucoup de communes et beaucoup de départements adoptent le vote électronique, qui n'est qu'une façon.
Je te dis pas exactement qu'ils le font pas, je te dis que tu te donnes mon avis, mais je te dis que c'est une mauvaise chose.
Il est sûr que le vote électronique. Et permettra toutes les tricheries possibles et imaginables. Ceci dit, la démocratie directe, si on s'achemine vers une démocratie directe dans notre discussion, la démocratie directe par Internet, c'est vrai que c'est la seule envisageable parce qu'elle est rapide.
Mais c'est pas une démocratie, tu ne discutes pas par Internet.
Si.
Dans les mouvements de chômeurs, on discute par Internet et tous les 8 semaines, on a une réunion de coordination où il y a un représentant de chaque collectif de France qui vient et une à deux fois par an, c'est l'Assemblée Générale, vient qui veut.
Que ça serve à fixer des rendez-vous, je veux bien. Au-delà de ça, moi, je n'y crois pas. Maintenant, c'est mon opinion, je ne prétends pas que ça soit. Alors, on est venu. Beaucoup de gens en ont parlé, on en a presque tous parlé. En fait, on a parlé du problème de l'encadrement du référendum, mais c'est la question centrale, parce que dans notre système, ça, c'est évident que c'est voué à l'échec. On va au mieux autoriser des référendums sur des sujets totalement marginaux, mais pas sur des sujets capitaux essentiels. Par exemple, je ne sais pas, toutes les décisions carrément importante pour la vie d'une nation de taille comme la nôtre, hein, ont été prises dans une obscurité totale. Le choix de faire que la France, par exemple, dépende pour sa fourniture énergétique du nucléaire à 75% a été prise par quelques technocrates sans aucun débat. Et ça, c'est des vraies décisions. Et il est évident que jamais, dans le système actuel, on autorisera des référendums sur des choix fondamentaux comme ça. C'est évident.
Ce genre de décision, on peut l'interdire lors de la réforme constitutionnelle. Ça, ce genre de décision interdit.
Oui, sans. Et puis après, je voudrais aussi, mais ça c'est plus une question à Simon, qui d'ailleurs est le prochain à parler, donc ça tombe bien. Vous avez parlé de tirage au sort, et ça, je trouve ça intéressant, parce que dans mes vagues souvenirs de lecture de jeunesse, il me semble que dans la démocratie athénienne, ça fonctionnait comme ça.
Oui.
C'est-à-dire que les charges étaient attribuées par tirage au sort.
Sauf les généraux et les magistrats.
Voilà, c'est ça, sauf en temps de guerre.
Et puis il y avait les esclaves et tout, alors on ne peut pas...
François, d'accord, mais bon, c'était quand même une cité qui fonctionnait avec des...
Les bonnes femmes, alors n'en parlons pas.
On va retourner.
Oui, ben, je sais pas quoi dire de plus sur le tirage au sort. Effectivement, il y en a eu dans l'histoire. Je ne sais pas trop bien le lien avec le...
La réforme globale, la réflexion que je dis est nécessaire actuellement, et c'est sur quelles nouvelles institutions nous permettraient d'avoir une véritable démocratie.
Oui.
Parce que ce n'est pas avec le RIC qu'on va pouvoir le faire.
Oui. Oui, effectivement.
Il faut vraiment et c'est ça qu'il faut chercher entre nous.
Ça bouge.
Je suis constitutionnaliste, donc.
L'appétence nouvelle pour le référendum d'initiative citoyenne et en fait par extension pour le plus de démocratie dans notre organisation politique pourrait être l'occasion de discuter de plein d'autres manières de s'organiser collectivement, c'est bien ce qu'on souhaite. Moi pour le référendum, pour prolonger ce que je disais avant, autant j'ai évoqué l'idée que peut-être les référendums pouvaient être préparés très en amont, être collectivement discutés, tout ça, faire en sorte que chacun puisse s'exprimer pour qu'on parvienne à une synthèse, etc. C'est ce que je souhaiterais pour un référendum d'initiative citoyenne s'il devait être mis en place. Mais je me fais pas d'illusions, je pense que ça n'arrivera jamais tant que on n'aura pas dit que... Enfin, pour moi, soit on dit qu'une décision doit être prise au consensus, et à ce moment-là, on se donne les moyens de le faire. Soit on donne la possibilité qu'elle puisse être prise à la majorité. Et à ce moment-là, on fera toujours l'économie du débat. Il y aura toujours des camps qui vont essayer de mobiliser les gens en faveur de la solution qu'ils souhaitent, avec toutes les dérives qu'on connaît, qu'on a observées lors du référendum sur le Brexit, avec des mensonges, surtout d'un camp, mais sans doute des deux. Et des décisions qui sont prises par des gens qui ne savent pas de quoi ils parlent finalement, parce qu'on leur a parlé de tout et de n'importe quoi. Et pour moi, c'est la dérive qui me semble automatique de ce genre de choses. Pas seulement parce que c'est au niveau national, hein, mais parce qu'on va essayer de mobiliser des populations qui ne connaissent pas la question, qui n'ont pas le temps de prendre vraiment connaissance de la question, et qu'on va bien en profiter pour pouvoir leur faire passer les idées qu'on a envie, juste parce qu'on sait qu'il suffit d'avoir réuni 50% plus une personne pour faire passer son idée. Et ça ne va pas du tout encourager à organiser tous les débats nécessaires à construire une position commune, inclusive, consensuelle, etc. Donc, ce que j'ai proposé moi-même dans la petite introduction, j'y crois pas vraiment, en fait. Je pense que dans ce cadre-là, ça ne marche pas, et que c'est que dans un cadre anarchiste où on décide dès le départ déjà plutôt au niveau local qu'au niveau plus large, mais en fonction des besoins, le niveau on le choisit, mais surtout qu'on décide dès le départ que ça doit être au consensus et qu'on fait tout pour y parvenir.
Michel.
Oui, c'est-à-dire qu'on parlait de RIC, là on parle finalement des gilets jaunes. Les gilets jaunes, ils mettent en avant quelque chose qui est réel, c'est que autant les élections présidentielles que législatives, il y a plus de 50% de gens qui n'ont pas été votés. Donc, les gens, ils sont légalement élus, mais ils sont très pauvres, ils ne sont pas représentatifs. Donc, quand on parle de représentation démocratique, qu'est-ce qu'il y a de représentatif dans ce qui est ? Qu'est-ce qu'il y a de démocratique là-dedans ? la réponse du RIC est une mauvaise réponse à un vrai problème. Le problème, c'est que cette pseudo-représentation démocratique qui ne l'est pas, c'est là le vrai problème. Il faut réformer ces choses-là. Et que, pour moi, le RIC est une mauvaise réponse à un vrai problème. Et que c'est là où il faut réfléchir. Le mouvement des Gilets jaunes qui fait qu'on est là en train de discuter de ça, parce que s'il n'y avait pas ça, je pense qu'on n'en discuterait pas du tout. Hein. Donc c'est par rapport à lui aussi qu'il faut envisager les choses d'une manière aussi pratique que possible. Est-ce que ce mouvement qui au début a même été qualifié de poujadiste, etc., parce qu'il y avait des petits coups de pied, etc., ce mouvement-là quand même, assez rapidement, il s'est intéressé à des questions comme ça, qui sont quand même inhabituelles. Dans les mouvements sociaux des 40 dernières années, c'est pas tous les jours qu'on voit des gens, nombreux en plus, à travers tout le pays, s'intéresser au fonctionnement des institutions, et puis constater que ces institutions sont contre nous et ne sont pas acceptables comme elles sont. Comment ?
Non mais là c'est un peu populaire.
Oui c'est ça, mais le beau c'est plus des étudiants. Il y avait tout Sciences Po,
Oui, c'est vrai, c'était
très parisien.
Donc, moi j'ai pas de boule de cristal non plus, je sais pas, est-ce que les Gilets jaunes ils vont approfondir cette question d'une manière qui peut la rendre intéressante aussi pour des gens comme nous. C'est-à-dire que ça peut devenir, ce mécanisme du RIC, ça peut devenir un cheval de Troie à l'intérieur d'un système qu'on est tous d'accord pour trouver pitoyable et surtout pas démocratique. Est-ce que ce petit fragment plus ou moins démocratique peut servir à progressivement subvertir le reste? Moi, ça, c'est une perspective qui m'intéresserait, mais je sais probablement que ça ne va pas se passer comme ça, parce qu'en face, on va leur dire, oui, le référendum, ça nous intéresse, mais pas du tout comme vous l'en cachez. Et est-ce que les libertaires, et même au-delà des libertaires, est-ce qu'on peut essayer de contribuer à cette réflexion, à cette discussion chez les Gilets jaunes? Bon, c'est une question qu'on peut poser. Et alors pour le consensus, juste, là j'avoue que le consensus au Chiapas, ils ont super bien travaillé là-dessus et ils savent apparemment comment le pratiquer, mais dans des petites communautés. Mais pour les 70 millions de Français, le consensus, je ne le vois pas venir demain.
Le consensus, ça fait progresser.
On a des réponses à ce que tu dis.
On a besoin du consensus.
C'est pas le moment.
C'est à toi, donc c'est justement le moment.
Dire ça parce que tu dis, voilà, on est comme ça, on va rien changer, donc c'est pas possible.
François, c'est justement à toi. Alors, j'écoute ce que vous me dites. En fait, il n'y a rien à changer, il faut garder le système représentatif, c'est évident. J'ai écouté. Le RIC, c'est me prend la peine, c'est complètement abruti. Alors, non, on est anarchiste ou anarchiste ou sympathisant pour leur dire ce qu'on devrait leur dire à ces pauvres gens de gilets jaunes qui savent rien et qu'il faut qu'on leur apprenne. Alors ça me gonfle. Alors donc j'arrêterai d'en parler. Je vais.
C'est vraiment pas ça.
Non.
Moi je passe mon temps à lire ce qu'ils font les gilets jaunes. Je les méprise pas du tout.
J'espère. En tout cas, je pense qu'il ne faut surtout pas leur dire ce qu'ils pourraient faire. Et je pense qu'ils ne veulent pas de chef, ils ne veulent pas de directive. Et ils ont raison, ils veulent que ça dure, j'espère, jusqu'à juin ou même après.
Voilà. Oui, on est bien d'accord.
Je pense que tu prends 2-3 questions, puis après on arrête.
Je ne sais pas, est-ce que vous en avez marre?
Je pense que le référendum, on finit les gens qui sont inscrits.
Bon, ben voilà.
Et après, on discute devant un verre.
On continuera. Bon, après,
les faire un référendum, si vous voulez, si la majorité est pour, ça va être.
Non, il faut le consensus.
Non.
Ça peut durer.
On peut voir contre le consensus.
On peut intéresser les gens au référendum, mais encore faut-il, il y a quelques petites conditions quand même à respecter, que ce soit écrit
dans un langage qui soit accessible au plus grand nombre. Et quand je dis ça, je pense notamment au texte qu'on nous a présenté ces 30 dernières années sur l'Europe, écrit dans un langage technocratique, juridique, auquel l'immense majorité ne comprend rien. Alors effectivement, moi, quand on me soumet un sujet écrit dans un langage auquel je ne comprends rien, ben, je n'ai pas envie de m'y intéresser. Donc il faut aussi mettre les conditions qui font que les gens seront intéressés par le...
Non, mais rassure-toi, on ne te les soumet pas. Non, non, mais attends. Moi, j'ai eu accès au texte de l'Europe, mais c'est noir sur blanc, c'est écrit. Il faut au moins 10% de chômage pour que la classe ouvrière ferme sa gueule. Et lorsqu'ils ne sont pas d'accord, il y a des pays qui ne sont pas d'accord, il y a des répressions qui sont licenciement de la moitié des fonctionnaires, diminution de 40%. Mais c'est écrit noir sur blanc.
Il y a eu des traités technocratiques, c'était pas évident.
Mais si. Il y a eu des traités de l'Europe unie, ça.
C'est le programme qu'ils ont appliqué.
Ce qu'il y a, c'est qu'on ne te dit pas, personne ne va te dire le chemin pour y accéder. Donc il va falloir que tu rencontres des gens qui y ont accès.
Donc il faut un minimum de clarté, de transparence dans les sujets que l'on soumet au...
Une question politique ou un sujet politique, il faut que tout le monde puisse avoir accès.
Voilà.
Donc pas forcément par l'écrit, c'est pour ça que on peut lire, enfin, comment on fait pour que tout le monde ait accès à l'information, à la question que je pose.
Ce n'ont pas des textes flous auxquels on ne comprend rien.
Simon, tu étais inscrit.
Ça, c'est évident que pour répondre à une question, il vaut mieux qu'on puisse tous la comprendre. Si je pense que là, l'idée quand même, ce serait qu'il y ait une élaboration commune d'un texte sur lequel les gens devront se prononcer. Après, on demandera sans doute pour ou contre un texte, mais après, ça pourrait être un texte complexe qui prévoit plein de dispositions. Après, quand on réfléchit à comment est-ce que l'Assemblée, même si ce n'est pas ma référence, mais les deux assemblées, comment est-ce qu'elles travaillent pour bâtir un texte, en général, c'est pas, il y a un texte de départ et puis ils font des amendements et tout ça, et ils essayent de l'améliorer. Donc ça va être compliqué de le faire en amont. Le risque, je pense, avec tout ce que j'ai souligné, hein, le risque du populisme, le risque de manipulation des foules et d'essayer de créer des camps plutôt que de créer du consensus et tout ça. En plus de ça, je pense que le risque serait que des gouvernants disent bon, voilà, on borde, mais on vous fait plaisir, on vous donne ce référendum d'initiative citoyenne, évidemment en le bordant pour que ce soit pas trop menaçant, mais qu'on attende qu'il y ait une ou deux décisions qui soient du grand n'importe quoi parce que ça sera la foire d'empoigne et qu'après ce sera le bon argument pour dire vous voyez, quand on vous demande de participer et de décider ce que ça donne, quoi. Vous allez nous faire un Frexit, vous allez voter contre je sais pas quel truc. Enfin, on peut imaginer plein de choses sur lesquelles le débat part en sucette et la décision sera un peu déplorable d'une manière ou d'une autre et que ça puisse être un argument encore contre la démocratie directe. Oui, le débat sur le RIC comme occasion de proposer d'autres moyens de s'organiser collectivement. Après, sur l'essayer, je ne suis pas sûr que c'est l'adopter.
Oui, bon, d'accord. Il faut peut-être en prendre quand même, d'accord.
Mais ça va être compliqué, je pense. Il y a beaucoup de travail d'information sur d'autres modèles alternatifs à faire. Même si c'est déjà bien que cette idée-là fasse son chemin et que les gens ne se satisfassent pas d'un gouvernement représentatif ou pour beaucoup, enfin, on se rend compte qu'en fait on n'est pas beaucoup entendu, on est beaucoup trahi et beaucoup déçu, mais qu'il faut partir de ce constat-là pour aller plus loin et pas juste se dire ah bah si on m'avait demandé mon avis à moi directement, ça irait mieux parce que ça créera peut-être plus de problèmes que ça n'apportera de solution.
Et puis, il ne faut pas que les demandes de référendum viennent de l'exécutif. Parce que là, c'est juste... Ça va faire le référendum d'initiative populaire à la Le Pen pour se vénérer. Vous voyez, 90% vont voter pour moi.
Il y a pas mal de gilets jaunes qui l'ont figé.
Qui ont figé quoi tu veux dire?
Qu'est-ce que tu dis là?
L'important, c'est que ça ne vienne pas du pouvoir. Si ça vient du pouvoir, ça ne représente aucun intérêt.
Ouais, bah. Le gouvernement aura toujours la possibilité, par le parti, de lancer des propositions de référendum et d'essayer de rassembler le soutien autour pour qu'il y ait le nombre de personnes, tout ça. Hein. Comment savoir si un truc n'a pas été lancé par un proche du pouvoir? Ça, c'est strictement impossible. Après, évidemment, si c'est Emmanuel Macron qui dit « Tiens, je vous propose ça », ce sera assez clair. Mais il y aura, si c'est Monsieur Lambda qui se trouve être un ami de quelqu'un du parti à qui on a suggéré de lancer sa pétition...
Ils envisagent quand même, d'après ce que j'ai vu, beaucoup de sujets qui seraient soumis au référendum, qui sont des sujets qui attaquent l'état actuel des choses, l'état actuel des institutions. Et alors, des propositions de ce genre, on saura que ça ne vient pas d'Emmanuel Macron.
Oui, ça c'est sûr. Mais après, que les trucs les plus globaux, les plus révolutionnaires, on voit mal comment ça peut passer. Tu vois, si tu veux dire on va faire un référendum pour ou contre la propriété privée, admettons que ce soit le contre l'emporte, mais comment est-ce qu'on organise ça, quoi? Enfin, dire ça, c'est une chose, mais après, qu'est-ce que ça implique concrètement? Quelle propriété privée? Comment est-ce qu'on démantèle? Par quoi on remplace? Enfin, tu vois, tu peux pas faire. Ou alors, il faut dire, si la réponse est contre, après, on en fait 15 autres après pour essayer de remettre les choses à plat. Mais
ils pensent pas, malheureusement, ils pensent pas à ces sujets-là. Tous les sujets de dépassement de l'économie, ça fait pas partie de leur intérêt. Ils n'ont pas la culture historique ou les libertaires, ou les conseillistes, tout ça, ils ne connaissent pas. Ça ne faut pas leur en vouloir.
Non. Et déjà, c'est bien de se réapproprier un peu la politique. C'est un très bon début.